Bonjour, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu qui est miséricordieux, qui est compatissant, qui est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut notre bien, Dieu notre Créateur, le Créateur de l'homme, Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, Dieu qui nous a donné une personnalité, un caractère, Dieu qui nous a donné un cœur et qui nous a donné une volonté. On a chacun notre volonté, une volonté. On a la capacité de choisir, on a la capacité de décider, la capacité de prendre des décisions, la capacité de raisonner, de réfléchir, de comprendre, d'apprendre. Et on est capable aussi de nous corriger de nos erreurs parce que nous, les hommes, nous avons péché et nous avons commis des iniquités, mais on est capable de se corriger. Nous sommes capables de nous repentir, nous sommes capables de prendre de bonnes décisions et de revenir à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes capables de nous réconcilier avec lui. Nous sommes capables de lui obéir. Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné un cœur pour comprendre. C'est lui qui a formé notre âme. Et c'est lui qui nous a donné tout ce qu'il nous faut. On est capable de croire Dieu. On est capable de croire Dieu. Et Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Dieu nous a créés pour qu'on le connaisse. Dieu nous a créés pour qu'on ait l'amitié, son amitié conjointe de son amitié, qu'on ait une relation d'amitié avec lui. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Dieu nous a créés pour jouir de son amour. Dieu nous a créés pour, que on soit avec lui. Dieu veut nous combler de son amour. Il veut nous faire du bien. C'est pas sa volonté que qui que ce soit périsse, mais sa volonté, c'est que tout soit sauvé. Dieu veut que tout soit sauvé. Mais pour être sauvé, c'est à nous de revenir à lui, de dire Seigneur, sauve-moi. C'est à nous de choisir la relation avec lui. Dieu ne peut se forcer sur nous. Dieu ne peut forcer son amour sur nous. Dieu ne peut nous forcer à l'aimer. Dieu veut que l'on l'aime. Dieu veut qu'on l'aime. Il nous appelle à l'aimer. Il dit, aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Dieu dit, revenez à moi. Dieu dit, choisissez-moi, revenez à moi. Revenez dans la relation avec moi. Je vous aime. Je veux vous donner la vie éternelle. Je veux vous sauver. C'est pas mon désir de te faire périr. C'est pas mon désir de te jeter dans le feu de l'enfer. C'est pas mon désir que tu sois dans les tourments éternels. C'est pas mon désir que tu subisses la condamnation éternelle. Mon désir, c'est que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle. Que tu sois en relation avec moi. Que tu jouisses de mon amour. Que tu jouisses de ma bonté. Je veux te combler de faveur. Je veux te faire du bien. Je veux que tu sois heureux. Je veux te rendre heureux éternellement. Je veux que tu sois dans mon paradis, que tu vives dans mon paradis, que tu vives dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, que tu aies le contentement, la satisfaction, que tu sois heureux à tout jamais. Je veux te montrer ma magnificence, ma gloire. J'ai une place pour toi auprès de moi dans mon royaume, dans ma maison. Veux-tu être avec moi? Ne veux-tu pas être mon enfant? Ne veux-tu pas faire la paix avec moi? Ne veux-tu pas être réconcilié avec moi? Ne veux-tu pas être mon enfant? Ne veux-tu pas que je fasse de toi mon enfant par adoption? Je t'aime. Moi, je t'aime et je t'appelle à moi. Aime-moi, dit le Seigneur. Aime-moi, dit le Seigneur. Reviens à moi, dit le Seigneur. Je ne veux pas te faire périr, dit le Seigneur. Je ne veux pas te jeter en enfer, dit le Seigneur. Je ne veux pas que tu subisses la seconde mort, les temps de fuite te souffrent. Je ne veux pas que tu sois jeté dans les ténèbres du dehors pour l'éternité. Je ne veux pas que tu souffres pour l'éternité, mais je veux que tu sois heureux éternellement. Reviens à moi, dit le Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, j'accorde à vous parler du lieu où Dieu ne veut pas que vous soyez jeté, du lieu où Dieu ne veut pas que vous retrouviez, l'enfer, car l'enfer existe, l'enfer est réel. Dieu nous l'a dit, Jésus l'a dit, les prophètes en ont parlé et l'ont dit, les prophètes de Dieu, les prophètes d'Israël en ont tous parlé, les prophètes, les apôtres du Seigneur, ils en ont parlé et Jésus lui-même en a parlé de l'enfer. Il nous a averti sur l'enfer. Il nous a dit qu'il est venu afin qu'on ait la vie, qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour nous sauver. Et s'il est venu pour nous sauver, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a du danger, ça veut dire qu'il y a un malheur, dont il veut nous épargner. Il veut nous sauver de quelque chose. Si on a besoin d'être sauvé, c'est parce que il y a un danger. Il y a quelque chose qui est là pour nous détruire, pour nous faire périr. Il veut nous sauver d'une condamnation. Il veut nous sauver d'un jugement qui est sur nous, d'un jugement qui viendra sur nous. Il veut nous sauver de quelque chose. Il veut pas qu'on périsse. Il veut pas qu'on se retrouve en enfer. Il veut pas qu'on soit séparé de Dieu. Et ça veut dire aussi que lorsque la mort physique vient, c'est pas fini. Car si lorsque la mort physique vient et ça vient pour tous les hommes, c'était fini. Si c'était fini et que la personne n'existe pas, qu'il y a plus de souffrance, plus de douleur, plus de, il y a plus de châtiment. Si les châtiments étaient seulement pour la terre, si les châtiments et les punitions, c'est seulement pour la terre, que les souffrances, c'est seulement pour la terre, que les conséquences du péché, c'est seulement pendant les jours de notre vie sur terre, eh bien, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Il n'aurait pas eu besoin d'offrir sa vie en sacrifice pour les péchés du monde, pour nous sauver, si après la mort physique, c'était fini, s'il n'y avait plus de condamnation, s'il n'y a pas de châtiment éternel. Mais il y a des châtiments après la mort. Et il y a la vie après la mort. Il y a une autre vie après la mort. Et pour ceux qui meurent sans Jésus, sans s'être réconciliés avec Dieu, en mettant leur confiance en Jésus, en le recevant, en disant « Oui, Seigneur, je t'accepte, je te veux, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es venu me sauver, sauve-moi, je te reçois, lave-moi, pardonne-moi, efface mes péchés, Seigneur, qu'il n'y ait plus de conséquences pour mes péchés, qu'il n'y ait plus de châtiment, je ne veux pas être châtié, je ne veux pas me retrouver en enfer, je ne veux pas, Seigneur, et tes yeux subir les châtiments, je ne veux pas me retrouver dans une prison éternelle, je ne veux pas me retrouver dans une prison et subir des terreurs, subir l'épouvante, subir tes châtiments, être dans l'humiliation. Épargne-moi de ces humiliations, de cette honte, Seigneur, mon Dieu, de cette opprobre. Seigneur éternel, mon Dieu, sauve-moi de cette humiliation sans fin. Sauve-moi, Seigneur éternel, mon Dieu, de ces tourments, Père, oh Dieu, au nom de Jésus. Je veux pas être tourmenté, je veux pas être malade pour toujours. Je veux pas être infirme pour toujours, je veux pas être frappé, oh mon Dieu. Je veux pas me retrouver dans le même lieu que le diable. Je veux pas me retrouver dans le même lieu que Satan. Je veux pas me retrouver dans le même lieu que les démons, Seigneur, qui me détestent, qui me haïssent, et Seigneur, qui veulent que je périsse, oh Dieu. Dieu veut nous sauver. Si on appelle au Seigneur, il ne nous rejettera pas. Et le salut se trouve seulement en Jésus. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que en croyant en Jésus. C'est le seul sauveur. C'est le seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel on puisse être sauvé. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre façon qu'en croyant en Jésus qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Il n'y a pas de salut en aucun autre que Jésus. C'est Jésus seul. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Il est écrit à propos de l'enfer, que la Bible aussi appelle la Géhenne, et que la Bible appelle aussi le séjour des morts. Donc, l'enfer, le séjour des morts, la Géhenne. Et il y a le lieu aussi définitif qui est aussi, on appelle la seconde mort, qui est l'étang de feu et de soufre, un étang, un lac de feu. Comme un lac de la lave d'un volcan, de se retrouver dans un lieu comme ça, dans un lac, mais c'est du feu liquide, et c'est brûlant, et ça dévore la chair, ça détruit. Dieu ne veut pas de ça pour nous. Et Dieu nous donne des avertissements, Dieu nous dit, reviens à moi, parce que je vais te sauver de ça. Je suis prêt à te pardonner, je suis prêt à te sauver. Je ne veux pas que tu périsses. Il n'y a pas de salut dans aucun autre qu'en Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le salut ne se trouve pas dans un prophète. Quelques noms qu'on donne à ce prophète, qu'on l'appelle Krishna, qu'on l'appelle Mohamed, qu'on l'appelle Bouddha. Le salut ne se trouve pas dans ce prophète. Le salut se trouve dans le Fils éternel, Jésus. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui le sauveur du monde. Il n'y a pas de salut en un autre qu'en Jésus. Il n'y a pas de salut en un autre qu'en Jésus. Il n'y a pas de salut en un autre qu'en Jésus. Il n'y a pas de salut dans les yogis, dans l'hindouisme. Il n'y a pas de salut dans les maîtres, les prétendus maîtres spirituels, les guides spirituels. Il n'y a pas de salut dans le vautour. Il n'y a pas de salut dans la sorcellerie. La sorcellerie ne sauve pas. Le vautour ne sauve pas. Le fétichisme ne sauve pas. L'hindouisme ne sauve pas. L'islam ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est le seul sauveur. Il est mort. Il est ressuscité d'entre les morts afin de nous donner la vie éternelle. Le salut se trouve en Jésus seul. C'est lui seul le seul sauveur. C'est lui le seul sauveur. Il est écrit à propos de l'enfer. Dans Luc chapitre 16, dans la Bible, les saintes écritures, la Bible qui est la parole de Dieu, qui est le livre qui contient la révélation de Dieu, où Dieu nous parle. C'est la lettre de Dieu aux hommes. C'est les instructions de Dieu. C'est les prophéties de Dieu. C'est ce que Dieu nous annonce. C'est ce que Dieu nous fait savoir. Et on doit l'écouter, on doit recevoir. Lisez la Bible. C'est important. C'est extrêmement important. Lis la Bible, la parole de Dieu, afin que tu saches, afin que la crainte de Dieu vienne dans ton cœur, afin que tu aies la crainte de l'Éternel, si tu n'as pas la crainte de Dieu, afin que tu craignes l'Éternel pour le respecter, pour te réconcilier avec lui si tu n'es pas encore réconcilié, pour faire attention afin que tu ne périsses pas, afin que tu n'irrites pas ton Dieu, pour revenir à l'Éternel, pour le servir fidèlement, pour ne pas le renier, pour ne pas le déshonorer, pour ne pas le rejeter, mais pour lui dire oui, pour lui dire oui et accepter d'avoir relation avec lui, de faire alliance avec lui, de dire, Seigneur, je fais alliance avec toi. L'alliance scellée par le sang de Jésus, le sang précieux de Jésus, je viens pour faire alliance avec toi. Je fais alliance avec toi maintenant. Je mets ma confiance en Jésus. Il est mort. Il est ressuscité entre les morts. Il est vivant. Donc, à propos de l'enfer, voici ce qu'il est écrit. Il est écrit dans Luc chapitre 16, il est écrit à partir du verset 29. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, je répète, il est écrit dans le séjour des morts. Donc, le riche est retrouvé dans le séjour des morts. Vous allez voir que c'est le riche qui menait joyeuse et brillante vie. Le riche, et vous allez voir lui-même pourquoi il s'est retrouvé en enfer. C'est pas parce qu'il est riche. C'est pas à cause de ses richesses. C'est pas à cause parce qu'il est riche. On peut être riche. Abraham était riche. Et David était riche, très riche. Et Job aussi était riche. Il n'était pas pauvre. C'est pas à cause de ses richesses qu'il se retrouve en enfer. Mais c'est à cause de son incrédulité. C'est à cause de son incrédulité qu'il n'avait pas cru dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est parce que il n'était pas revenu à Dieu. Il avait méprisé Dieu. Il avait été indifférent à Dieu, à l'égard, pendant les jours de sa vie sur la terre. Il n'avait pas écouté les prophètes de Dieu, les prophètes d'Israël, qui lui avaient dit, reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu. Sois réconcilié à ton Dieu. Demande pardon. Soumets-toi à ton Dieu. Adore-le. Aime-le. Sois sauvé. Demande pardon. Demande pardon. Offre tes sacrifices pour ton péché. Pour être pardonné. Fais ce que Dieu te demande. Et il n'avait pas écouté, vous allez voir. Il est écrit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, Père Abraham. Donc, le riche, il s'écria, Père Abraham. Il s'écria, Père Abraham. Et pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc ici, on voit que on appelle celui-là le séjour des morts. On l'appelle aussi l'enfer. On a l'habitude, le nom commun, on l'appelle l'enfer. Donc le riche, il fut, il descendit en enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Il s'est retrouvé en enfer à cause de son incrédulité. Il se retrouve en enfer parce que il n'avait pas cru dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pendant les jours de sa vie sur la terre. Pendant les jours où il était vivant dans son corps physique sur la terre. Pendant les jours où il avait la respiration, le mouvement et la vie sur la terre. Il avait méprisé les choses. Il n'avait pas écouté. Il n'était pas revenu à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu d'écrire son nom dans le livre de vie. Et il avait méprisé la parole de Dieu. Il n'a pas demandé pardon pour ses péchés. Il n'a pas confessé ses péchés. Il ne s'était pas reconnu comme étant un pécheur ayant besoin d'être sauvé, ayant besoin d'un sauveur, pas du tout. Et voici, il est mort. Il est mort pensant qu'après la mort, c'est fini. Pensant qu'après la mort, il n'y a pas de conséquences. Pensant qu'après la mort, mais c'est fini. Disant, je n'existerai plus, c'est tout. Donc, pendant que je suis vivant, c'est le temps pour moi de me réjouir, de fêter et de faire tout ce que je veux. Il n'y a pas pensé à Dieu. Il n'y a pas pensé qu'il y a un Dieu. Quoi qu'il avait entendu la parole, mais il n'a pas voulu croire. Il avait dit, c'est pas la vérité. C'est la foutaise. Il avait été incrédule. Il avait été sceptique, disant, pourquoi est-ce que je devrais croire ça? Pourquoi est-ce que je devrais mettre ma confiance dans ces choses-là? Qu'est-ce que je sais, moi, si c'est vrai? Et il avait été incrédule. Et voici les conséquences. Il s'était retrouvé dans le feu. Et si vous voyez, après la mort, il était encore vivant. Mais vivant dans un lieu de tourment. Il était encore vivant. Il avait encore des yeux pour voir. Parce qu'il est écrit qu'il leva les yeux. Il leva les yeux, tandis qu'il était en pro-tourment. Donc, il avait des tourments. Il avait encore des sensations. Il avait encore conscience de sa personne dans l'enfer. Après la mort, son corps physique était mort. Le corps physique n'avait pas de sensations. Le corps physique ne voyait pas. C'était pas avec son corps physique qu'il voyait. Mais c'était avec le corps de son esprit. L'esprit a un corps. Et c'est avec les yeux de son esprit qu'il a vu l'esprit. À tes yeux pour voir, il a une tête. Il a la même forme que le corps physique. Donc, il leva les yeux. Il a des yeux, donc. Après la mort, c'est Jésus qui parle. Jésus n'est pas un insensé. Jésus ne dit pas tes mensonges. Jésus a dit qu'après la mort, il fut mort. Il était mort. Et voici, il leva les yeux lorsqu'il était rendu dans le sein d'Abraham. C'est un lieu. Pas dans le sein d'Abraham, mais plutôt dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et donc, il avait tes yeux pour voir. Il avait une tête pour pouvoir lever ses yeux. Bien, c'est parce qu'il y a une tête. Il a une tête. Et il a des yeux dans cette tête-là. Les yeux de son esprit. Il a une bouche pour parler. Il avait des oreilles pour entendre parce qu'il a une conversation. Il avait une conversation avec Abraham. Et il a vu Abraham. Il a entendu la voix d'Abraham qui lui a répondu. Et il y avait une distance entre lui et Abraham. Et il ne pouvait pas passer du côté d'Abraham. Et Abraham a dit que nous ici, on ne peut pas passer de votre côté à vous. On peut parler de votre côté à vous, il y a les tourments. Et donc, il était dans un lieu, littéralement, un lieu réel, un lieu de souffrance, un lieu d'amertume, un lieu terrible, un lieu où il était en peine, il avait la tristesse, et il se souvenait encore de ses frères, il se souvenait encore de sa famille. Vous voyez, il avait encore ses souvenirs, il était encore la même personne qu'il était avec son caractère, sa personnalité, son cœur. Ses sentiments, ses pensées, ses souvenirs. Il se rappelait encore des choses. Il se rappelait encore. Et il savait qu'il était. Il savait aussi pourquoi il se retrouvait dans ce lieu-là. Et voici, il leva les yeux. La Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en pro-tourment, il vit de loin Abraham. Donc, il vit Abraham de loin et Lazare dans son sein. Dans ce temps-là, avant que Jésus donne sa vie sur la croix pour sauver l'humanité, lorsque le juste mourait, c'est-à-dire les justes comme Abraham, les justes comme Lazare. Lazare était pauvre, il était misérable. Quoi, c'était pas la volonté de Dieu que Lazare soit pauvre, misérable lorsqu'il était sur la terre? Il avait été pauvre et misérable parce qu'il n'a pas eu confiance en son Dieu pour demander à Dieu de le guérir de ses maladies. David avait été malade, il a prié au Seigneur. Il avait dit, Dieu guéris-moi. On peut le lire dans les psaumes de David, dans la Bible. Et Dieu l'avait guéri de ses maladies. Dieu l'avait guéri de maladies qu'il avait eues. Et si Lazare n'avait pas été guéri pendant les jours de sa vie sur la terre, c'est parce qu'il n'avait pas demandé à Dieu. Il n'avait pas eu confiance en Dieu pour le demander. Parce que Dieu est un Dieu de guérison. Et Dieu guérit. Et Dieu fait prospérer. Dieu prend soin de ceux qu'il aime. Dieu prend soin de ses serviteurs. Dieu prend soin de ses disciples. Et Dieu aurait voulu prendre soin aussi dans ce domaine-là de Lazare pendant que Lazare était vivant. Mais Lazare avait la foi pour être sauvé. Il a mis sa confiance en Dieu. Il savait qu'après la mort, il irait au ciel dans le paradis de Dieu. Il irait dans le paradis de Dieu. Je crois que le paradis de Dieu, c'était pas le ciel de Dieu dans ce temps-là, mais c'était plutôt le sein d'Abraham. Parce que dans ce temps-là, les âmes des justes pouvaient pas monter directement pour aller là où il y a le trône de Dieu, là où il y a le paradis céleste de Dieu. Il était dans le sein d'Abraham, qui était un lieu dans les profondeurs de la terre, qui était pas loin du séjour des morts. C'était des lieux où ils se voyaient même. Donc ils étaient pas loin. Et c'était un lieu d'attente, c'est un lieu temporaire où les justes, les rachetés de l'Ancien Testament, les rachetés avant que Jésus meure et ressuscite d'entre les morts, c'était le lieu où ils allaient. Et c'est un lieu de consolation, c'est un lieu de réconfort, c'est un lieu où ils étaient bien, ils étaient heureux dans celui-là, et ils attendaient que le Messie vienne pour les faire sortir, pour les prendre, et pour les amener là-haut dans le ciel, vraiment là où il y a le ciel de Dieu, le trône de Dieu, les anges de Dieu. Parce que le trône de Dieu, c'était pas dans le lieu où se trouvait présent dans ce temps-là Abraham, c'était le sein d'Abraham. Mais maintenant, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, Jésus les a pris, et il les a conduits maintenant là-haut, là où il y a le trône de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Mais dans ce temps-là, le sein d'Abraham, les justes étaient dans le sein d'Abraham. Et Lazare a vu, ou bien plutôt le riche pécheur, le riche incrédule a vu Abraham. Et il a vu Abraham et il a vu Lazare, qui était auprès d'Abraham. Donc, il avait tes yeux pour voir. Il était dans le tourment. Il avait soif. Et il se sentait mal. Il était malheureux. Il était triste. Donc, c'est un lieu réel. Et il s'écria, Père Abraham, et puis c'est un moi, il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, mais maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voyez-vous, il se rappelle encore de ses frères. Il se souvient qu'il a des 5 frères. Il sait qu'il a 5 frères. Il a encore des connaissances. Il sait qu'il a 5 frères. Il dit, C'est pour qu'il leur atteste ces choses, c'est-à-dire quelque chose, que l'enfer existe, que l'enfer est réel et que voici leur frère qui est décédé, se trouve en enfer. Il aurait voulu que Abraham fasse ressusciter Lazare. Quoique Abraham n'a pas ce pouvoir-là. Abraham n'a pas le pouvoir de ressusciter Lazare. Mais lui, il a plaidé avec Abraham disant, mais fais cela, ou bien peut-être prie à Dieu. Il demande à Dieu de faire ça pour moi. Il a dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un était mort, va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un était mort, ressusciterait. Ô Seigneur Jésus, sauve, Seigneur ô Dieu, sauve. Et Seigneur, persuade, Seigneur ô Dieu, afin, Père et tes yeux, que Seigneur et tes yeux, ceux qui sont incrédules, croient partout sur la terre, Seigneur et tes yeux, qu'ils croient et qu'ils reviennent à toi, parce que l'enfer est réel. À propos du séjour des morts, de ce même lieu, il est écrit dans Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, dans les livres de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 9. Il est écrit, le séjour des morts s'émeut. Le séjour des morts, qu'on appelle aussi l'enfer, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est étendue, ta magnificence est étendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ici, on parle du diable, le malin. Vous voyez où il est tombé en enfer, il est en enfer. Sa place est en enfer, c'est dans le séjour des morts. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. C'est le malin qui frappe les nations de la terre maintenant, c'est lui, le persécuteur, c'est lui qui nous frappe de maladie et d'infirmité. Il rend les hommes malades sur la terre. C'est sa faute si la mort est venue sur les nations. C'est sa faute si la mort est venue. Et c'est lui qui frappe de maladie, c'est lui l'esprit de maladie. Rappelez-vous que Jésus chassait les esprits malins. Les esprits de maladie et les gens étaient guéris. Jésus chassait les esprits qui causaient des infirmités et les gens étaient délivrés de leurs infirmités. Le diable est l'esprit de maladie. Le diable est l'esprit qui cause les infirmités. Le diable est celui qui frappe les nations. Le diable est celui qui cause les guerres sur la terre. Le diable est celui qui séduit les hommes, qui les trompe. C'est lui le méchant. C'est lui le méchant et c'est lui aussi qui tourmente les âmes en enfer. Et sa place est l'enfer, le séjour des morts. Il est écrit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais j'ai été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voyez-vous, il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il est dans la fosse maintenant, dans la fosse. Et la fosse est littéralement la fosse. Et l'enfer, ça se trouve littéralement dans les profondeurs de la terre, sous terre, profond, profond, sous terre, là où il y a le noyau de la terre. Sous terre, c'est là que ça se trouve. C'est là que ça se trouve, c'est écrit. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. On parle du diable maintenant. Satan, l'ange déchu, le chérubin déchu. Déchu, c'est-à-dire qu'il est tombé. Il a été rebelle. Il s'est révolté contre son Dieu. Et maintenant, il est en enfer. Il est écrit, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on t'éteigne, comme une dépouille de gens, tu as coup d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse comme un cadavre foulé aux pieds. Si tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple, on ne parlera plus jamais de la race de tes méchants. Préparer le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde de tes ennemis. Mais béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Le diable, c'est lui le méchant. C'est lui le méchant. Et en même temps aussi, tous les hommes qui sont méchants sur la terre, qui sont méchants, qui font des méchancetés, qui relâchent la haine sur la terre et qui font des massacres et qui détruisent et qui refusent de servir Dieu, qui refusent d'aimer leur prochain, qui refusent de marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus, qui refusent d'écouter Jésus, qui refusent de recevoir l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu pour marcher dans l'amour, qui refusent de mettre la parole de Dieu en pratique et qui causent des dégâts sur la terre, qui ravagent, qui détruisent, qui font toutes sortes de dégâts sur la terre, qui détruisent l'homme, leur semblable, et bien, leur lieu aussi. La Bible le dit, c'est dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Mais maintenant, le malin, il se trouve dans ce lieu, quoi qu'il n'ait pas renfermé là pour toujours. Dans le sens, il peut sortir et rentrer. C'est lui le chef de l'enfer. C'est lui, maintenant, qui tourmente les âmes en enfer. C'est lui, maintenant, qui applique les châtiments. C'est lui le méchant qui tourmente en enfer. C'est lui le méchant. Mais l'Éternel Dieu ne veut pas qu'aucun homme se retrouve en enfer. Ceux qui se retrouvent en enfer, c'est parce que ils ont rejeté Christ, le Messie. Ils ont rejeté le salut de Dieu. Ils ont rejeté le salut de Dieu. Voici ce que Dieu dit à propos encore. Voici ce que les Saintes Écritures disent encore à propos de l'enfer. Il est écrit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ici encore, Jésus nous parle de la géhenne et où il dit qu'on ne laisse rien être pour nous une occasion de chute, une occasion de scandale, une occasion de rejeter Dieu, une occasion de nous faire périr et de nous faire nous retrouver en enfer. Peu importe ce que je sais, qu'on se sépare de ça, qu'on rejette ce genre de choses et qu'on rejette donc le péché, qu'on rejette la débauche, qu'on rejette l'adultère, qu'on rejette l'orgueil et qu'on rejette toute chose qui veut nous séparer de Dieu, qui vient pour nous faire périr. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 10, il est écrit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Donc il nous dit de craindre plutôt Dieu, d'avoir une crainte respectueuse de Dieu qui peut faire périr notre âme et notre corps dans la géhenne. Amen. Il est écrit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, l'âme du rebelle, l'âme de l'homme, de la femme, rebelle. Dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Voyez-vous, laisser des abîmes des ténèbres et Dieu, c'est un place de jugement. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction et réduit en centre les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux te tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, c'est-à-dire les hommes justes, les hommes qui marchent droitement devant lui, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Voyez-vous, il y a un jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ici le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, en tarés souillés. Ils se détaillent de leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultères, insatiables de péché. On se rappelle les hommes de Sodome et de Gomorre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de la sodomie, ils faisaient des choses impures, et même Dieu envoyait des anges pour voir ce qui se passait dans cette ville, pour voir ce qui se passait. C'était une ville de corruption, de débauche. Les hommes couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes, ils couchaient les uns avec les autres, ils faisaient des orgies sexuelles, et ils violaient les hommes, les femmes, et même deux anges ont été envoyés par Dieu. Et les anges, ils ont vu les anges qui ressemblaient à des hommes. Ils n'avaient pas d'ailes, ces anges-là. Ils ressemblaient à un simple homme et de bel homme. De bel homme, ils ont vu les anges et ils ont voulu violer les anges. Ils ont voulu violer les anges. C'était une vie où il y avait la sodomie, où il y avait l'homosexualité, qui est une chose perverse. Il faut se repentir de ça. Et c'est pour ça que Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Mais on vit dans un monde où maintenant les hommes méprisent Dieu. Ils méprisent la parole de Dieu. Et ils appellent bien ce qui est mal, comme par exemple l'homosexualité. Ils appellent ça bien. Et maintenant, il y a des gouvernements sur la terre, il y a des pays sur la terre où la prostitution est une chose légale. Et ils appellent ça un métier. Et ils font ça un métier. Et même le gouvernement prélève des taxes sur les prostituées. Et les maisons de prostitution, les maisons de débauche sont légalisées. C'est ce genre de choses qui conduit les hommes en enfer. Ils rejettent l'Éternel. C'est marqué, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. C'est-à-dire, ils aiment le péché, ils prennent plaisir dans le péché. Ils veulent surtout pas se repentir. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le chemin, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui est mal le salaire de l'iniquité. Mais il fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré tes souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans leur bourbier. Oh Seigneur. Donc on voit ici que c'est le péché qui détruit. Le péché, la débauche, la corruption. Il faut fuir ces choses et demander au Seigneur de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier, haïr le péché. Le péché, chose détestable, chose abominable, chose haïssable. Le péché, chose détestable, qui conduit les hommes en enfer. Il est écrit, Jude chapitre, dans Jude chapitre 1, à partir du verset 4, il est écrit, car il s'est glissé parmi vous, c'est certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, donc il y a une condamnation. Des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il renie le maître et Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un renie le maître et Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas que Jésus le rejette, ne veut pas entendre parler de lui, le rejette et croit tes mensonges, refuse de croire que Jésus est le sauveur du monde, que Jésus est le fils de Dieu, que Jésus c'est celui qui ressuscite les morts. S'il préfère croire tes mensonges, s'ils préfèrent croire tes faussetés, eh bien, ils ne peuvent pas être sauvés et ils se retrouvent en enfer par leur propre faute. Il faut venir à Jésus. C'est lui seul qui sauve. Il n'y a pas de salut autrement que en ayant la foi en Jésus. C'est lui le sauveur du monde. Il est écrit dans Jude, chapitre 1, verset 5, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur a, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, se subissant la peine d'un feu éternel. Voyez, c'est un feu éternel. L'enfer, c'est un lieu où il y a un feu éternel. Il faut échapper à celui-là, il faut surtout pas s'y retrouver. Fuyez l'enfer, fuyons l'enfer, prenons garde à nous-mêmes. Les anges rebelles, c'est là qu'ils se sont retrouvés. C'est malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. quand l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas apporter contre lui un jugement usurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime, que le Seigneur te réprime, il dit, que le Seigneur te réprime, il dit. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse, c'est ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent en ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Mais malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont tes écueils dans vos agas, faisant imputamment bonne chair. Ce seraient pensant eux-mêmes, ce sont tes nuées sans eau, pour pousser par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, de deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui. Qu'on préfère contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Mais pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous de l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse à Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Béni soit l'Éternel. Maintenant, où se trouve l'enfer? Où se trouve l'enfer? L'enfer se trouve dans les profondeurs de la terre. L'enfer se trouve dans les profondeurs de la terre. Et celui qui les attire en enfer, c'est le diable lui-même lorsque la personne meurt sans avoir eu son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, sans être venu à Jésus. Cette personne-là est perdue pour l'éternité et personne ne peut le délivrer. Et c'est le malin lui-même qui vient le chercher. C'est les esprits malins qui l'avaient trompé, qui l'avaient séduit, qui l'avaient gâté dans les ténèbres, dans le péché. Et c'est lui qui vient les chercher. C'est écrit. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, et étant monté en haut, il a emmené tes captifs et il a fait tes dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures. Vous voyez, on parle ici de Jésus qui était descendu dans les régions inférieures de la terre. Lorsque Jésus mourut, le jour, il y a 2000 ans de cela, le jour où il fut crucifié sur une croix, il était descendu, c'est-à-dire son esprit était descendu dans les profondeurs de la terre. Il était descendu dans les régions inférieures de la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 10, il est écrit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ici, on parle de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, l'enfer se trouve dans les profondeurs de la terre. Jésus était descendu en enfer. Son âme était descendue en enfer pour délivrer les captifs. Et il était descendu parce que il était mort comme un homme coupable de péché, quoiqu'il n'était pas coupable. Et il était descendu, mais le diable n'a rien pu le faire. Le diable n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Et Jésus était en enfer. Il a dépouillé le diable. Il a pris les clés du séjour des morts entre les mains du diable, de Satan, de Lucifer, le diable. Et Jésus a prêché, il a dit aux esprits qui étaient dans ce lieu-là, c'est-à-dire il a prêché aux saints, il a prêché à tout le monde dans ce lieu-là, il a proclamé la victoire sur la mort et sur l'enfer. Il a proclamé la victoire sur le péché, il a proclamé qu'il est béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et maintenant, qui est le chef de l'enfer maintenant? Qui est en enfer en train de tourmenter les âmes? Mais c'est le diable, c'est Satan le méchant. C'est Satan le méchant. Dans le ciel, Dieu, Dans le paradis, tes yeux, il y a Dieu qui règne sur son trône et c'est Dieu qui répand les bénédictions. Mais en enfer, c'est le diable qui répand les châtiments et les tourments. C'est le diable qui administre les châtiments. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 11, il est écrit la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc c'est Ézéchiel le prophète à qui la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Il dit fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Si tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, si tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de tiamant, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en centre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te regardent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Donc ici, on voit que c'est le malin. Ici, on parle de Lucifer, qui est devenu Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu. Lorsqu'il fut créé dans le ciel de Dieu, il était créé parfait. Il était créé parfait en sagesse et en beauté. Il n'avait pas de péché en lui. Il n'y a pas d'iniquité en lui comme il n'y a pas d'iniquité dans les autres anges de Dieu, dans les chérubins, les séraphins, les archanges, toutes les créatures célestes. Il n'y avait pas de péché. Le péché n'était pas connu. Il n'y en avait pas. Il était parfait, il était beau, il était intègre. Et il a marché dans l'intégrité pendant longtemps. Et puis voici un jour, il s'est mis à avoir de mauvaises pensées. Un jour, il s'est mis à penser mal. Il s'est mis à jalouser Dieu. Il s'est mis à être envieux de Dieu. Il a laissé son cœur devenir envieux à l'égard de son Dieu. Et il a entretenu de mauvaises pensées. De mauvaises pensées lui sont venues. Et puis, il a commis la rébellion. Il s'est révolté. Et il a été corrompu les autres anges aussi parce que la Bible dit qu'un tiers des anges sont tombés. Et il n'est pas seul maintenant. Mais il y a beaucoup d'anges qui sont tombés dans la rébellion avec lui. Il les a corrompus de la même façon qu'il a corrompu Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il a été leur mentir, leur dire des faussetés. Il a été leur parler des paroles pour qu'ils se rébellent contre Dieu, pour qu'ils soient insatisfaits de leurs conditions, mécontents à l'égard de Dieu, pour qu'ils soient mécontents, pour les frustrer, pour irriter leur cœur contre Dieu. Et il y en a parmi ses compagnons, chérubins, séraphins, anges, archanges, qui se sont laissés séduire et ils l'ont cru. Et l'insatisfaction, le mécontentement est venu dans leur cœur alors qu'il n'y a pas de cause d'insatisfaction ni de mécontentement. Ils étaient bien. Ils étaient dans un lieu tellement bien. Ils étaient bien. Ils étaient honorés. Ils étaient comblés de gloire et d'honneur. Ils étaient bénis. Ils étaient bien. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'iniquité, il n'y avait pas de maladie. Ils ne manquaient de rien. Ils étaient heureux. Ils étaient parfaitement heureux. Il n'y avait pas de cause et d'insatisfaction. Et Dieu, leur Dieu avait été bon à leur égard. Leur Dieu avait été bon et honnête et juste. Et il les avait bénis. Mais voici que, à la parole d'un de leurs compagnons, qui a été leur dire des choses, et ils se sont mis à se révolter. La même façon que le diable avait été dans le jardin d'Éden sous la forme de serpent, séduire Ève et lui dire des paroles, lui dire, est-ce que c'est vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme a dit, Dieu a dit que nous pourrons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit de pas toucher, de pas manger, de peur que nous mourions. Et le diable a dit, non, c'est pas vrai, vous ne mourrez pas, Mais c'est que Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous serez comme Dieu, comme tes dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, le ciel les a menti, disant que ce que Dieu a dit, c'est pas vrai, qu'ils ne mourraient pas, et qu'ils avaient besoin de manger le fruit, que c'était bon pour eux, et qu'il leur manquait quelque chose. Et il leur parlait comme si Dieu n'était pas dans leur intérêt, dans l'intérêt d'Adam et Ève. Il leur a dit, c'est un menteur. Il a fait quelque chose de semblable. Il a fait quelque chose de semblable avec ses compagnons, les anges. La Bible ne dit pas les détails des choses, mais on peut comprendre que c'est comme ça. Et ce méchant-là a été séduire les autres anges. Et beaucoup l'ont suivi dans sa rébellion. Beaucoup se sont mis à penser en mal de Dieu. Et ils se sont lancés dans la révolte contre leur Dieu. Et Dieu les a chassés loin de lui. Dieu les a punis. Dieu les a châtiés. Dieu les a châtiés et Dieu les a jetés dans les ténèbres. Et Dieu les réserve pour le feu éternel. Et maintenant, déjà, Dieu a fait sortir un feu qui les dévore. Dieu les détruit maintenant. Et ils sont châtiés, mais ils ont encore un peu de liberté. Et c'est eux qui sont maintenant ces esprits malins qui sont relâchés, qui viennent pour séduire les hommes. Mais c'est pas la volonté de Dieu qu'on se laisse séduire. Il faut leur résister. Comme Adam, il devait résister. Mais Adam a chuté. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer. Et Jésus, il fallait que Jésus meure, qu'il donne sa propre vie. Lui qui était parfait, sans péché, qui n'était coupable de rien, il a donné sa vie afin que nous, on puisse vivre, afin que nous, on puisse être pardonnés de nos péchés. Et tout ce qu'on a fait, c'est se repentir et croire au Seigneur Jésus, croire ce qu'il a fait pour nous, croire en ce qu'il est, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, c'est le malin qui séduit les hommes. C'est lui le trompeur. C'est lui le trompeur et c'est lui qui administre les châtiments en enfer. Imaginez être jeté entre les mains du diable. C'est parce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est parce que nous voulons. C'est parce que nous voulons. Pourquoi être jeté entre les mains du diable? Un tyran de la sorte, un méchant, c'est lui le méchant. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais les châtiments de Dieu sont terribles. Les châtiments de Dieu sont terribles. Et le châtiment de Dieu, c'est d'être jeté entre les mains du diable. Si on le refuse, si on refuse Dieu, si on veut pas de Dieu, on veut pas de son amour, on veut pas de la relation avec lui, on veut pas de son adoption, on veut pas de son amitié, on veut pas faire alliance avec lui, eh bien, c'est qu'on a choisi le diable et c'est là qu'on va aller. C'est une chose terrible. Et je ne souhaite ça à personne. Je ne souhaite ça à personne, même le pire de mes ennemis, même n'importe qui pourrait m'haïr, me détester. Je ne souhaite pas une telle chose. Le désir de mon cœur, c'est que tout soit sauvé. C'est que tout, c'est la vie éternelle. C'est que tout, c'est la vie éternelle. Oh Dieu, sauve, convainc, ramène à toi, oh Dieu, au nom de Jésus. Et Seigneur, oh Dieu, fais comprendre, Seigneur, qu'en toi seul, il y a la vie. Béni soit l'éternel, gloire à Dieu. Donc, c'est Satan et ses démons qui sont en enfer, qui tourmentent. C'est eux qui sont les portiers de l'enfer. C'est eux qui accueillent les âmes, si on peut appeler ça accueillir, qui descendent en enfer. Et Jésus a dit que large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui prennent ce chemin-là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est un chemin étroit. C'est un chemin resserré. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père autrement que par moi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père autrement que par moi. Il n'y a pas d'autre façon d'aller au Père céleste, de rentrer dans son royaume, de faire partie de ses rachetés autrement que par Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, comment échapper? C'est par Jésus seul. C'est par Jésus seul. C'est par Jésus et Jésus seul. À propos du malin et de ce qu'il a fait, à propos du diable, il est écrit dans Isaïe chapitre 14, à partir du verset 3, il est écrit: et quand l'Éternel t'aura donné du repos, et après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fait imposer, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge était dominateur, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, et poursuivit sans ménagement toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour, Le séjour des morts s'émeut dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône de tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence était sans jude. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône où t'es sur des étoiles, tes yeux. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc ici, encore on voit que le malin était précipité. Mais maintenant, comment échapper? Comment échapper au malheur? Comment échapper au malheur? Il n'a pas été centre. Comment échapper? Comment échapper? Comment faire pour échapper? Eh bien, le seul moyen, c'est par la foi en Jésus. C'est par la foi. C'est Jésus le Sauveur. C'est par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus est mort pour nous racheter. C'est par la justification. La seule justification, c'est par la foi en Jésus-Christ. Jésus, son sang versé, c'est notre seule justification. C'est la seule façon d'être justifié. La foi en ce que Jésus a fait. C'est la sanctification par le sang de Jésus. En recevant l'adoption que Dieu nous offre. L'adoption offerte à cause du sang versé de Jésus. C'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. En recevant Jésus, lorsqu'on reçoit son esprit, on l'accepte, eh bien, Dieu envoie son esprit habiter en nous et on devient une nouvelle créature. On devient un enfant de Dieu, un petit bébé spirituel et on devient un enfant de Dieu, la nouvelle naissance. Et c'est ça l'importance du sang de Jésus. C'est ça l'importance du sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. S'il n'y avait pas eu la mort de Jésus, si Jésus n'avait pas donné son sang, on ne pourrait pas être sauvé. Le salut vient par la foi en Jésus. Il est écrit, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que tu l'as ressuscité des morts, tu seras sauvé car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et dans Romains chapitre 3, à partir du verset 20, il est écrit, nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, il manifeste la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction car tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de dire, je te montrerai sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Donc, béni soit l'Éternel. Qui peut nous sauver de l'enfer? Jésus seul. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père autrement que par moi. Donc, c'est par Jésus et par Jésus seul. C'est par Jésus et par Jésus seul. C'est pas la religion qui sauve. C'est pas une quelconque religion, mais c'est Jésus seul qui sauve. Il n'y a pas de salut dans la religion. Il n'y a pas de salut dans les religions du monde. Il y a le salut seulement en Jésus. Seulement, lorsqu'on vient à Jésus, qu'on croit en Jésus, on le reçoit, alors on est sauvé. Et autre chose, combien de temps l'âme perdue, l'homme mort et descendu en enfer, y restera-t-il? La Bible dit que c'est pas toujours. La Bible dit que c'est une souffrance sans fin. C'est une chose vraiment terrible, mais c'est sans fin. C'est sans fin. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 7. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, vous voyez les tourments ici, c'est jour et nuit au siècle des siècles. C'est-à-dire, ça n'a pas de fin. sa part fin. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être pardonné et d'être relâché de l'enfer après être mort et être descendu? Non, il n'y a pas de possibilité. Une fois qu'on est rendu là, qu'on est mort, on est mort sans avoir été pardonné pendant les jours de notre vie sur terre, c'est trop tard, on ne peut jamais être pardonné, il n'y a plus de pardon. On aura beau demander pardon à Dieu, c'est trop tard. C'est trop tard, on peut pas se repentir en enfer, c'est trop tard pour se repentir. C'est pendant les jours de la vie sur la terre qu'il faut se repentir. Une fois qu'on est rendu en enfer, il y a plus de possibilité d'en sortir. Il y a plus de possibilité. Et on n'a pas prié pour quelqu'un qui est déjà descendu en enfer, qui est mort, parce que c'est fini. Dieu a dit que c'est fini. On peut pas prier pour les morts. On doit pas prier pour les morts. On doit pas prier pour les morts. Et le purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de purgatoire où quelqu'un serait descendu et que des personnes célébreraient tes messes pour ces personnes-là, feraient faire des prières, adresser des prières à Dieu, et qu'après un certain temps, on sait pas combien de temps, 1000 ans, 2000 ans, que Dieu relâcherait de ce purgatoire-là et ferait passer à son ciel. C'est pas vrai, ça c'est un mensonge du diable. Le purgatoire n'existe pas. Les punitions, les châtiments de l'enfer sont terribles. C'est le feu, c'est les vers, c'est les tourments, c'est toutes sortes de choses. Des choses terribles. Des choses terribles, terribles, terribles. C'est des choses terribles. C'est des choses terribles. Mais maintenant, je vais parler du jugement dernier, du jugement du trône blanc. Pour terminer, il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger la terre. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont pas la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel, il les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ici, c'est le trône de Dieu. Dieu assis sur son trône. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu, qui quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque dont les noms ne furent pas trouvés, écrits dans le livre de vie, furent jetés dans les temps de feu. Donc, c'est clairement établi que l'enfer existe, le feu éternel, tes châtiments éternels. Croyez au Seigneur Jésus si vous ne croyez pas encore. Et nous, les enfants de Dieu, eh bien, gardons-nous dans le Seigneur et prions pour les autres et évangélisons. Prêchons la parole de Dieu, témoignons aux autres, disons-leur de venir à Jésus afin qu'ils puissent être sauvés. Avoir la vie éternelle et ne pas se retrouver dans celui terrible. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Et c'est pas la volonté de Dieu qu'on se retrouve dans ce lieu. C'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu est un juste juge aussi. Et si quelqu'un le rejette, eh bien, les conséquences sont très graves. Les conséquences sont terribles. Dieu est un Dieu redoutable, c'est un Dieu bon, mais c'est un Dieu aussi redoutable, un Dieu avec qui il ne faut pas plaisanter, il ne faut pas niaiser, il ne faut pas prendre les choses à la légère, il ne faut pas prendre ses avertissements à la légère, il faut écouter le Seigneur. Il dit de se repentir, il faut se repentir, il dit de ne pas jouer avec le péché, il ne faut pas jouer avec le péché. Le péché est un serpent qui mord, qui détruit. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin. Il fallait qu'Adam obéisse. Adam a pris les choses à la légère. Adam a pris les choses à la légère. Adam a été rebelle. Il a désobéi et graves sont les conséquences. Donc maintenant, montrons-nous intelligents. Béni soit l'Éternel, que Dieu vous bénisse et croyez au Seigneur. Soyez sauvés si vous n'êtes pas encore sauvés. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu.